l'Église à qui Jésus ne fait pas de reproche.
Spécial, ça.
Il y en a seulement deux dans les sept églises de l'Apocalypse qui sont mentionnées dans le chapitre 2 et 3. Et une de celles qu'on visite, c'est Philadelphie. On a déjà passé deux dimanches dans cette église-là à observer les gens de cette église-là puis à essayer d'apprendre, mon ami, c'est quoi que ça a l'air une église à qui Jésus ne fait aucun reproche? Qu'est-ce qu'ils ont l'air le monde dans cette église-là? Puis on a été un peu surpris. Parce qu'on s'attend souvent à notre définition d'une église qui est sans reproche. On peut avoir certaines idées, mais c'est très différent des Écritures. Alors, tournez vos Bibles dans l'Apocalypse, chapitre 3. Alors, jusqu'à présent, on a couvert les versets 7 à 11. Et aujourd'hui, Dieu voulant, on va aller 11 à 13. Alors, je vais relire les versets 7 à 11a. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas et qui mentent. Mais je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Et verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et la dernière fois, on avait arrêté au verset suivant. Voici, je viens bientôt. Depuis la dernière prédication jusqu'à aujourd'hui, Jésus est parvenu. Mais c'est possible que je ne finisse pas cette prédication-là. Ça se peut. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. C'est les textes qu'on va discuter ce matin. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Oh, des vérités intéressantes à explorer. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne, pas une nouille, une colonne, dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles, ah, ça vous concerne tous et moi inclus, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta parole parce que c'est ça qui est notre point de référence pour te connaître, toi, et apprendre à vivre en attendant que tu nous rappelles à toi. Seigneur, je te supplie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont des oreilles ici, que les textes qu'on va lire, les mots qu'on va prononcer puissent passer par les oreilles, rentrer dans la tête, faire un chemin dans le cœur et descendre jusqu'aux pieds pour que ça influence la marche. C'est ma prière, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Alors, on a eu deux dimanches à visiter cette église-là et voici ce qu'on a observé pendant les deux derniers dimanches, c'est que peu de puissance. Alors, si nous, là, on pourrait se transporter dans le temps, là, puis aller visiter l'église de Philadelphie, on ne verrait pas des gens qui frappent. On ne verrait pas une église qui frappe. Au contraire, ça dit qu'ils étaient peu puissants. Et avoir peu de puissance, ça n'a que des avantages. Parce que ça nous pousse à être dépendants du Seigneur. Quand on se sent faible, c'est là qu'on est fort. Un homme qui se dit en lui-même, « Moi, là, aimer ma femme, il n'y en a pas de problème, je suis capable. » Il s'en va vers un échec, c'est certain. Mais s'il dit, « Seigneur, c'est pas que le problème est avec ma femme, le problème est avec moi. Change-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ma femme, j'ai besoin de toi pour l'éducation des enfants. Moi, j'ai tout lu les livres de « Focus on Family ». Il n'y en aura pas de problème pour éduquer mes enfants. Mais là, vous vous en allez vers un échec. Mais si vous dites, Seigneur, j'ai besoin de toi pour éduquer cet enfant-là. Votre travail, que ce soit dans le domaine des affaires ou de l'éducation ou la ferme, sentir votre faiblesse, c'est une force incroyable. Parce que ça vous pousse à aller vers Dieu et trouver en lui votre force. Trouver en lui votre force. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Alors, ces gens-là, Jésus leur dit, parce que tu as peu de puissance. Donc, on voit dans l'église de Philadelphie un paquet de monde, pas gonflé, mais vraiment des gens humbles et dépendants de Dieu. Et ça, c'est une force. Ensuite de ça, ça dit que tu as gardé ma parole. À Philadelphie, on aurait été surpris, édifié de voir que les gens là-bas, là, l'autorité dans leur vie, là, c'était pas le dernier livre de psychologie ou de philosophie, mais c'était la parole de Dieu. Tu as gardé ma parole. Et on aurait aussi vu des gens, Jésus leur dit, tu n'as pas renié mon nom. Ce que ça veut dire simplement, c'est que Christ est roi. Et pas parce qu'il y a eu que de difficultés dans leur vie qu'ils vont renier le Seigneur, mais au travers des difficultés, ils ne renient pas le Seigneur et gardent Christ au centre. Et ça termine en disant, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Lâchez pas. Persévérance. Comme on a besoin de persévérance dans tout, 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 on a besoin de persévérance. Parole de la persévérance en moi. Lâchez pas. Certainement qu'il y en a d'entre vous là, qui, peut-être, là, vous êtes découragés, vous êtes frustrés, vous avez envie de dire, bon, ben, moi, je mets tout ça de côté, ça ne marche pas vraiment dans ma vie, etc. Faites pas cette erreur-là. Persévérez, premièrement, pourquoi votre motivation à persévérer, c'est la gloire de Dieu. Un. La deuxième raison, deuxième chose qui me motive, moi, à persévérer, c'est ma femme et mes enfants. Et vous autres, l'Église locale, c'est un puissant motivateur à persévérer. Et en fin de compte, c'est qui aussi? C'est le monde à qui ils savent que vous êtes chrétiens. Et demain, vous abandonnez tout. Mon ami, quel témoignage! Vous rendez la job des autres encore plus difficile, c'est déjà assez dur. Oh oui, un tel, il allait à l'église, il a tout lâché, là, lui. Non, persévérez, mes frères, mes sœurs. Ça demande. Des fois, on a l'impression que ça vient nous chercher au fond des entrailles. Mais si vous sentez que vous êtes sur le bord, là, bien, demandez à un frère, une sœur, dites Seigneur, on va prier ensemble. J'ai besoin d'aide. Et ici, Jésus dit à l'Église de Philadelphie, « Tu as gardé la parole, la persévérance en moi. » Il leur donne une promesse. « Je te garderai, parce que tu as gardé, là, moi, je vais te garder hors d'eux. » Ça veut dire que ça vous rende inconfortable. Moi, ça me rend terriblement inconfortable, la vérité suivante, qui va éprouver les habitants de la terre. C'est-à-dire, il y a un jugement, si vous lisez les Écritures, il y a un jugement épouvantable qui s'en vient sur le monde. Et ça va éprouver les habitants de la terre. Et finalement, c'est l'enfer éternel. J'aime pas cette idée-là, ça me rend inconfortable. Mais c'est une vérité biblique à laquelle on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais ici, la promesse pour les gens de Philadelphie, c'est « Je vais te garder, ça dit de, je vais te garder aussi à l'heure de la tentation, mais le mot c'est « ek, eka » en grec, et ça veut dire « hors de ». L'Église va être enlevée avant ça.
Et vous allez me dire, oui, mais Sylvain, il y a tellement de problèmes dans le monde, des tribulations et tout ça. Oui, mais ça, c'est une chose, les tribulations, les difficultés, nos frères qui ont été martyrisés dans le passé, etc. Ça, c'est une chose. Mais ici, on parle d'une autre chose. On parle de la colère de Dieu sur les habitants de la terre. L'Église a toujours été éprouvée. Les chrétiens ont toujours eu des difficultés, des défis, etc. Mais ça n'a jamais été la colère de Dieu sur un monde qui a rejeté son Fils. Vous voyez, là, il faut faire une distinction entre les deux. Alors, on continue. Et on avait terminé la dernière fois avec la moitié du verset 11. « Je viens bientôt. » « Je viens bientôt. » Je sais ici, il y en a tout de suite qui disent, « Oui, mais Sylvain, ça fait 2000 ans. » Bientôt, là, 2000 ans, c'est long. J'avais spécifié que le mot « bientôt », ça ne veut pas dire en termes de temps, mais en termes de rapidité. Ça veut dire que quand Christ va revenir, ça va se faire rapidement, soudainement. Très, très, très rapidement. Et, laissez-moi vous poser la question. Quand j'ai dit « Je viens bientôt », est-ce que vous y croyez? Répondez-moi pas, c'est à vous de répondre. Est-ce que tu y crois? Jésus revient bientôt. Tournez vos Bibles dans Pierre. Et j'espère qu'aucun de vous fait partie de ce groupe-là. Là. Tournez vos Bibles dans Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 3 et au verset 3. De Pierre 3, verset 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, » et là vous allez dire, « Oui, mais Sylvain, les derniers jours, ça aussi, ça fait 2000 ans que c'est les derniers jours. » Oui, depuis le départ de Christ au ciel, l'expression « derniers jours », c'était la dernière période. Là. On est dans les derniers temps, on est dans les derniers jours depuis 2000 ans. Et si le Seigneur revient dans 1000 ans, on est encore dans les derniers jours, dans les derniers. Ça veut dire que c'est la période avant le retour de Christ sur la terre. C'est ça que ça veut dire simplement. Mais dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. Ah, ça, c'est ceux qui n'y croient pas vraiment que Christ va revenir. Et au verset 5, ça dit, « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. » Alors, ils veulent simplement ignorer qu'il y a eu un Dieu créateur. Ce n'est pas le produit d'une explosion ou de l'évolution. Ils veulent ignorer ces choses-là. Et que par ces choses, le monde d'alors fut péri, submergé par l'eau. Alors, de quoi il fait référence ici? Au déluge. Il y a eu un déluge dans la Bible. Il y a eu un déluge, et ça n'a pas été un déluge local, ça a été universel, ça a été sur toute la terre. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, ce que nous avons maintenant, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et au verset 9, « Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour, comme quelques-uns le croient. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit ça? Que ça n'arrivera pas? J'espère non de tout mon cœur. Mais il use de patience envers tous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce que Dieu désire, c'est que tous, chacun d'entre nous, plusieurs ont passé par cette repentance-là, mais il est peut-être possible ici qu'il y en a qui n'ont pas encore passé par la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est ici, Pierre Jean, dans l'Apocalypse, revenez vos doigts là, dans l'Apocalypse, fait référence à ce moment-là où Dieu va éprouver les habitants de la terre. Le deuxième jugement universel va avoir lieu par le feu. Le premier s'est fait par l'eau et le deuxième va se faire par le feu. Un verset sur 25 dans le Nouveau Testament parle du retour de Jésus-Christ. Un verset sur 25. Ce n'est pas une vérité isolée, mais c'est répandu partout. Si j'y crois, si tu y crois, ça a un impact majeur dans ta vie. Je crois que Jésus revient. Un, mon service. Mon maître revient, alors je vais te trouver à son service. À son service. Mon maître revient. Et le service, ça se fait de différentes façons. Ne pensez pas que le service du maître, c'est seulement les missionnaires, les pasteurs. Et c'est, exemple, Ghislain, tu poses des fenêtres. Quand tu poses des fenêtres, tu les poses pour la gloire de Dieu, tes fenêtres. Quand tu pars et que les fenêtres sont tout croches, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça. Tu comprends-tu? Tu es au service de ton maître Gaston, dans ton domaine, les silos droits, pas tout croches. Charles, tu sais, dans l'enseignement, hein, c'est toute une mission que tu as. Et les mamans. Quelle mission vous avez? Éduquer des enfants pour qu'ils viennent à la connaissance de Christ. C'est un travail à temps plein, une mission incroyablement noble et importante. Alors, quand je crois que Christ revient, ça change la manière que mes journées se passent. Ça change mon interaction avec ma femme. Je veux pas laisser les chicanes s'étirer quand je crois que Jésus revient. Je veux être en ordre avec ma femme. Ça change mon implication dans l'église locale. Ça change tout. Ça change comment je parle aux gens qui m'entourent, le service. Ça change aussi au niveau de la sainteté. Si je crois que Jésus revient, ben misère, je ne vais pas me planter devant des cochonneries. Je crois que Jésus me revient. Alors, ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je lis, mes loisirs, etc., ça change au niveau de la sainteté dans mon cœur. Je vais trouver en sa présence vraiment en ordre. Et aussi, pour ceux qui souffrent, vous savez quoi? Vous vous dites, ça ne durera pas toujours. Jésus revient. Ça ne durera pas toujours. Seigneur revient. C'est juste pour un temps. Juste pour un temps. Alors, on va continuer. Verset 11. Alors, on a établi clairement que Jésus vient bientôt. C'est à vous de vous poser la question, est-ce que j'y crois? Puis si j'y crois, qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Qu'est-ce que ça change? Et ça dit ici, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Je me suis posé la question, mais je dois retenir quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je retienne? Retienne, c'est quoi retenir? C'est, ça veut dire, je suis attaché, je veux retenir. Alors, tournez vos Bibles dans Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2. Et au verset 15, alors 2 Thessaloniciens 2, verset 15, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Retenir les instructions. C'est ce que ça veut dire ici. Retiens ferme ce que tu as. Et revenez dans l'Apocalypse. Gardez votre doigt toujours dans notre texte. Là. Retenir au verset chapitre 2, 13 dans l'Apocalypse. On a encore cette même idée-là. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Alors, retenir. ce que l'on a, c'est retenir les instructions, les Écritures, et de ne pas renier le Seigneur. Et aussi, dans le même chapitre, au verset 25, à l'église de Thyatire, il donne la même vérité. « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Retenez ces instructions-là. Retenir la parole. Mais pour retenir la parole, misère, il faut que je la lise. Et il faut que je la médite. Et je les retiens, ces textes-là, ces vérités-là concernant Jésus-Christ et la marche chrétienne. Alors, retenir. Mais ce qui est un peu dérangeant ici, c'est « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Oh! « Afin que personne ne prenne ta couronne. » Une couronne, c'est... Est-ce que c'est le salut ici? C'est une récompense. Saviez-vous que moi et vous, un jour, on va être tout seul devant Dieu, puis je vais avoir des comptes à rendre, pas en ce qui a trait mon salut, parce que ça, c'est réglé sur la terre, mais en ce qui a trait mon service. En ce qui a trait mon service. Tournez vos Bibles dans 1 Corinthiens 3. Dans 1 Corinthiens 3, et versets 9 à 15. Cette vérité-là, alors gardez toujours vos doigts dans l'Apocalypse. Alors, 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Mon œuvre à moi va être manifestée, la vôtre aussi. Car le jour, alors tantôt on va trouver c'est quoi ce jour-là, le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Qu'est-ce qui va se révéler dans le feu? C'est l'œuvre de chacun. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Pas le salut ici, une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pas le salut, mais la récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de nouveau pour vous, mais Paul, ici, mentionne cette idée-là qu'un jour, l'œuvre de chacun va être éprouvée. Mais ici, ce n'est pas le salut, je le répète, là, parce que faut pas avoir de confusion. Paul le mentionne aux Corinthiens. Et il rementionne ça dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Tournez vos Bibles dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 6. Deux Corinthiens 5, 6. « Nous sommes tous... toujours plein de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. » On n'aime pas ces expressions-là. On dit, « Ah, oh, c'est à l'air légaliste, ça. » Non! quand on a connu le Seigneur, on veut lui être agréable. On sait, et Paul, il ne dit pas que ça vient facilement. Il dit que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il nous faut tous. C'est qui ça, tous? Est-ce que ça t'exclut, Carmen? Non, hein? Moi non plus, ça ne m'exclut pas. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Est-ce qu'on parle du salut ici? Non, on parle des récompenses. Concernant le service, on a un potentiel énorme le temps qu'on est dans ce corps présentement. D'utiliser ce temps qu'on a pour le servir. Et enlevez-vous, je le répète, enlevez-vous de la tête que servir Christ, c'est nécessairement missionnaire en Afrique, etc. C'est auprès de vos femmes, vos enfants, à l'école, à la ferme, à l'église locale, dans vos business, etc. Et cette idée-là, Paul la réécrit une autre fois dans Corinthiens. C'est important qu'on les lise, ces textes-là, dans Corinthiens 14. Dans Romains 14. Dans Romains 14, il répète cette même idée-là, dans Romains 14. Et au verset 10, alors 14, 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ici, il dit le tribunal de Dieu. Dans Corinthiens, il va dire le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et je le répète, ce n'est pas concernant mon salut. Parce que ça a été réglé à la croix. Mon péché a été pris à la croix. Mais il reste que comme serviteur de Dieu, Dieu vous a donné des dons et des possibilités de servir. Et un jour, je vais paraître, moi toute seule, et je ne serai pas là pour te défendre, Victor. Tu vas être tout seul. Tu vas aller... La parution devant le tribunal de Christ devrait pas être une chose, une vérité qui vous effraie, mais devrait être au contraire un motivateur. Un motivateur pour le présent. Et cette vérité-là, elle est présente dans les Écritures. Le salut par grâce, par la foi en Jésus-Christ seulement, ça existe. Mais le tribunal de Christ, où nous allons paraître comme chrétiens, où on aura des comptes à rendre pour les dons, les services, les possibilités d'œuvrer, et on va avoir des comptes à rendre pour ça. Ça aussi, c'est là. Et la parole de Dieu dit clairement qu'il y en a qui vont être sauvés comme au travers du feu, et toute leur œuvre, ça va passer par le feu. Il y a rien qui va... Ils vont être sauvés, mais il n'y aura pas de récompense. Et on ne parlera pas des récompenses, je ne suis pas exactement certain qu'est-ce que ça veut dire, les récompenses exactement dans l'éternité. Là, peut-être qu'un jour on en parlera, mais il faudrait que je fasse des recherches à ce niveau-là. Alors, revenez dans l'Apocalypse. Alors, afin que personne ne prenne ta récompense, ta couronne. Verset 12. On continue. Celui qui vaincra, je ferai de lui une nouille dans le temple. Une colonne. Une colonne. C'est pas beau, ça? Celui qui vaincra. Avec Amélie puis François, ils sont venus passer quelques jours avec nous. Ça a été notre méditation le soir. Et puis, on en est venu à la conclusion que l'expression « celui qui vaincra » implique quoi? Un combat. Tu vaincs quoi si tu n'as pas de combat, là? Alors, Jésus nous dit à l'Église, ou dit à l'Église de Philadelphie, « Celui qui vaincra ». Cette expression-là, « celui qui vaincra », c'était ma dernière série de messages que j'ai faite en 2008 en République dominicaine, quand j'avais visité les églises, il y a une douzaine d'années. Et c'est avec ça que je voulais les laisser, avec une motivation de vaincre, de combattre. Et cette expression-là, « celui qui vaincra », elle est pour chacune des sept églises de l'Apocalypse. Celui qui vaincra. C'est quoi ce combat-là? Alors, quand je me suis arrêté à réfléchir là-dessus pendant la semaine, j'ai trouvé trois fronts à laquelle le chrétien est appelé à combattre. Trois fronts différents. Le premier, c'est le monde. Ça, c'est à l'extérieur de vous. C'est toutes ces idées, ses valeurs, ses priorités, le monde qui essaie de vous dire qu'un homme, s'il veut être une femme, il peut, puis qu'une femme qui veut être un homme, elle peut, puis le chrétien, il doit combattre cette idée-là, dire, écoute, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. L'homosexualité aussi. Toutes les questions des priorités de couple, des priorités de famille. Vous êtes appelés à combattre ces idées-là qui vous bombardent à gauche, à droite, soit par la radio, soit par l'école, soit par la télévision, l'Internet. Filtrer continuellement les messages qui vous sont envoyés, de combattre et de vérifier, selon les Écritures, qu'est-ce qui est la vérité. Un des chants que Yvon Pierre nous a fait chanter ce matin, c'est « Sois mon encre, un encre. Mon encre, c'est Christ, c'est la parole de Dieu. » C'est ça qui me stabilise. Sois ma voile. Ma voile, c'est ça, c'est ces vérités-là qui me poussent. Ce n'est pas un vent de philosophie d'une part, philosophie de l'autre, une idée de ça. Ceux qui sont allés à l'université ou qui ont étudié un petit peu à l'école, on vous dit que la Terre a X milliards d'années puis que c'est venu par une explosion quelconque ou tout ça. Puis alors que la parole de Dieu, ça dit que ça s'est fait en 7 jours. C'est simple, ça. C'est jour. Il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir, il y a un matin, il y a un soir, il y a un matin. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Ça, on doit combattre ça, surtout si vous avez des enfants, là, les parents. C'est important que vous puissiez discuter de ces choses-là avec vos enfants pour pas qu'ils soient mêlés. Alors, le monde. Tournez vos Bibles dans 1 Jean 5 concernant le monde. 1 Jean 5 et versets 3 à 5. 1 Jean 5 et versets 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et notre foi, elle est ancrée dans la parole de Dieu. Qui est celui qui triomphe du monde? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Notre triomphe sur le monde passe par la foi en Jésus-Christ. Et le monde, c'est quoi? Ben, tournez vos bibles, c'est-à-dire dans chapitre 2 de cette même épître, 1 Jean 2, au verset 15. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ça, ce n'est pas les individus, ce n'est pas les personnes, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est grave, ça. Car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi le monde? C'est la convoitise de la chair. Convoiter, ça, c'est désirer ardemment. C'est passionnément, là, tu veux ça, tu veux ça, tu le veux, tu le veux, tu le veux. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, on l'a lu à deux reprises. Le monde passe. À un moment donné, le monde là, va passer. Ce que vous voyez autour de vous, là, ça va disparaître à un moment donné, puis ça va être changé. Et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. notre premier front de combat, celui qui vaincra, c'est par rapport au monde, ses idées, ses priorités, ses valeurs, ses philosophies, etc. Le chrétien, lui, écoute et expose ces choses-là et doit filtrer à la lumière des Écritures. Le deuxième point de combat, c'est moi, ma chair, ma nature pécheresse. Et je vous garantis que ça fait rage des fois. C'est très violent des fois. Dans ma tête et dans mon cœur, c'est tough. C'est vraiment tough. Puis je ne suis pas tout seul, Paul est dans le même camp. Alors, tournez à Romains. Romains 7, verset 18. Oui, Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire du bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne vous demande pas de lever la main, mais si je vous posais la question, combien de fois est-ce que vous vous êtes dit, misère, je fais le mal que je ne veux pas puis je ne suis pas capable de faire le bien que je voudrais. Et on fait de la peine. On fait de la peine à nos femmes et à nos maris, à nos enfants et aux autres. Et avancer dans le même texte, dans verset 24 du même chapitre, de la même épître, Paul s'écrit à la fin du chapitre 7, « Misérable que je suis, si vous avez jamais éprouvé ce sentiment-là d'être misérable et que vous êtes un enfant de Dieu, tôt ou tard, vous allez l'éprouver. Et ça fait extrêmement mal. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort-là? » Tu te sens pogné en dedans, là, comme c'est pas possible. Et grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et chaque fois que ça m'arrive, c'est qu'il faut que je me tourne vers Christ et dire, Seigneur Jésus, tu n'es pas mort pour un pécheur en papier. Merci, Seigneur, merci, mais tu me pardonnes. Et c'est donc vrai ce que tu dis au verset, à la fin du verset 25. « Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. J'aime le Seigneur, j'aime sa loi, j'aime sa parole. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Il y a une tension en dedans de nous qui est forte par moments, selon des fois certains caractères, qui nous tiraille en dedans. Et ça, c'est un combat. Pierre adresse la même chose dans 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre 2, 11, on dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles, ça c'est la chair, qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles, en dedans de vous, en dedans de moi, ça fait la guerre à l'âme. Ça crée une tension. Et l'égoïsme, ça se manifeste des fois dans des situations où, par l'égoïsme, il y a une tension dans vous, vous avez envie de penser rien qu'à vous, pas à l'autre. L'orgueil, cette tension-là, vous la vivez, l'impatience, la querelle. Au lieu de vous fermer la boîte, vous rentrez à pieds joints dans une querelle. Et là, vous naviguez pour des heures et des jours avec votre femme avant de régler ça. Pour quelques minutes, on peut faire des dommages. Et c'est ce combat-là qu'on est appelé à livrer et à ne pas négliger. On est chrétien, on a le Saint-Esprit en nous, mais il y a aussi cette partie de vous et de moi qui est en combat face à que le Saint-Esprit est la parole de Dieu et le fruit de l'Esprit. Ça, c'est le deuxième aspect des combats de la vie. Alors, le monde, ça, c'est l'extérieur. La chair, c'est à l'intérieur. Je suis pogné avec ça en dedans de moi. Et il y a un combat. Et vous savez quoi? Cette chair-là, ça n'améliorera pas. Hein? Moi, je me souviens encore, j'étais jeune chrétien, puis il y a un vieux prédicateur de la Suisse qui avait dit ça. Il avait 80 ans. Il dit, la chair, ça n'améliore pas. Il dit, croyez-moi, j'en revenais pas. Je te décourageais raide. Je dis, aïe, aïe. Moi qui pensais qu'en rendu à 80, tu étais rendu là. Non, il dit qu'il y a des, il y a des luttes. C'est pas M. Alexandrien en passant. Lui, il a 88, lui. Non, c'était au début de ma vie chrétienne. Et puis, il me disait, Sylvain, il dit, il y a encore ces tensions-là dans moi. Il y a encore ces tensions-là dans moi. Il avait marié une Allemande qui n'était pas évidente, là. Des fois, je pense à mon gars. Alors, les tensions, alors, ça devrait vous enlever un peu de fardeau si des fois vous vous sentez coupable. Ce que vous vivez, le voisin à côté le vit, l'autre en arrière, moi en avant, et c'est toutes ces tensions-là. Mais il faut les reconnaître et les confesser, en parler au Seigneur simplement. D'accord? Et à un moment donné, ce qui arrive, la seule différence que je vois maintenant à mon âge par rapport à ce que je ne voyais pas vraiment dans les 20 ans, 30 ans, c'est que quand j'étais plus jeune, mon ami, je n'avais pas le temps de rien voir, puis je m'impatientais. Ça venait tellement vite. Tandis que là, la différence, c'est que je le sens venir. Là, je me dis, oh boy, ça, c'est une situation favorable pour moi de me frustrer. Je les connais. Mais c'est situé la plupart du temps, mais pas toutes. Puis là, j'ai plus de temps pour réfléchir, je suis moins prime. J'ai plus de temps pour réfléchir, réagir, puis de me préparer. Des fois, je m'en vais dans ma chambre, je sais, je suis mieux d'aller dans ma chambre. Mais avant, je me pognais. Mais ce n'était pas la bonne chose. Impulsif, etc. OK? Bien, on apprend. Et la dernière chose, le dernier point de combat, c'est le diable. Croyez-vous au diable? Regardez les journaux, regardez les nouvelles. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résister au diable. C'est quoi se résister? C'est un combat, ça. C'est un autre combat. Le diable, lui, va s'y prendre différemment. La façon dont le diable va s'y prendre, c'est la même chose qu'Adam et Ève. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Son objectif principal, c'est de vous faire douter de la parole de Dieu. C'est la façon dont il va s'y prendre. Ou par des accusations. Des accusations, etc. 1 Pierre, tournez vos Bibles encore à droite. Dans 1 Pierre, l'épître à côté. 1 Pierre nous dit la même vérité. 1 Pierre 5, verset 8 et 9. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Et ce vieux prédicateur-là, il disait toujours, il dit, Sylvain, il dit, t'as pas à t'inquiéter. Il dévorera, mais le lion rugissant, il n'y a pas de dents. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas venir bout de toi. Tout ce que tu as dit, c'est comme Jésus a dit dans le désert, quand il a été tenté, c'était quoi? Il est écrit. Quand vous sentez qu'il y a un doute, une pensée d'incrédulité dans votre cœur qui vient, et tout ce que vous avez à dire, je rejette ça. Parce que c'est ça qui est écrit. Jésus a répondu au diable dans le désert à 3 reprises. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit, ça. On termine. On va terminer dans l'Apocalypse maintenant. Je veux vraiment finir ça aujourd'hui. Alors, trois fronts de bataille pour le chrétien. Un, le monde, ça c'est l'extérieur. Deux, la chair, c'est à l'intérieur. Et trois, c'est l'invisible, c'est le diable qui nous tente de remettre en question la parole de Dieu. Remettre en question la parole de Dieu. Est-ce qu'il a vraiment écrit ça? Oui, il est écrit ça. Et c'est ça que je crois, que je veux croire, que je vais continuer à croire. Alors, d'un côté, on est victorieux, puis d'un autre côté, on est appelé à combattre. C'est un paradoxe. Les deux sont impliqués. Dieu nous donne les ressources, mais en même temps, nous avons la responsabilité d'utiliser ces ressources-là. Et je termine par la promesse. Au verset 12, « Celui qui vaincra. » Alors, la question du combat est claire dans notre tête à Castleman. « Je ferai de lui une colonne. » Une colonne. Et ça nous rappelle les colonnes. Dans ce temps-là, là, les colonnes, ils élevaient des colonnes, et c'était souvent en l'honneur de grands leaders ou de certaines déités. Alors, on y inscrivait leur nom. Dieu va faire, il y a une promesse pour vous, je ferai une colonne. Et une colonne, ça symbolise quoi, ça? La stabilité. Ça symbolise aussi la droiture. Et une colonne pointe où? Vers le ciel. C'est ce que Dieu vous donne comme promesse. Mais combattez. Comme je l'ai dit tantôt à la blague, une colonne, pas des nouilles, pas des mauviettes, des colonnes. Commencez maintenant, dis Seigneur, moi, sais-tu quoi? Je ne veux pas attendre dans le ciel pour être une colonne. Je veux une colonne maintenant. Je veux une colonne maintenant. Je veux un homme droit, un homme stable, un homme qui pointe vers Christ par ma vie, par mes paroles. Et il dit aussi une autre promesse, « Je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. » Ça symbolise quoi? L'éternité. C'est qu'il n'y aura plus de possibilité de sortir, là. C'est un symbole de sécurité, il n'en sortira plus. Et il dit, « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Le nom de la ville de mon Dieu est la Nouvelle Jérusalem. Yvon Pierre l'a mentionné. Un endroit où il n'y aura plus de pleurs, il n'y en aura plus de combats, là. C'est fini. On va être victorieux et récompensé. Moi, je me réjouis tellement, là. Des fois, je suis excité à penser, là, de regarder mon ami José, regarde, la récompensé à sa couronne, c'est une colonne. Le nom de Dieu inscrit sur elle, c'est là pour l'éternité. Plus de stress, plus rien de ça. Symbole de sécurité. Et on termine, je n'ai pas trop élaboré là-dessus, déjà 11h20, je termine avec « Celui qui a des oreilles, entende. » Alors, maintenant vous êtes responsable, vous avez entendu. Ce que l'Esprit dit aux églises, ce n'est pas Sylvain, c'est ce que le texte nous donne. Et moi, ma prière, là, vraiment, là, c'est que Castleman devienne la Philadelphie du 21e siècle. Que ça soit rempli d'hommes et de femmes qui ne sont pas nécessairement très confiants en eux-mêmes, qui ne démontrent pas beaucoup de puissance, mais qui sont attachés au Seigneur. Et des vainqueurs, des hommes et des femmes, puis des jeunes hommes et des jeunes femmes qui luttent. Tu vois qu'ils luttent contre le monde, la pensée du monde. Ils luttent contre les idéologies du monde, contre la moralité du monde, et puis la chair. On ne se compte pas des histoires, là. On est capable de se partager nos luttes et nos combats, puis dire, mon ami, on s'encourage. Et aussi le diable, les gens qui luttent. C'est une promesse. Alors, moi, je trouve ce texte-là, là, Philadelphie, c'est encourageant pour ceux qui prennent la vie chrétienne là, au sérieux. Si vous prenez la vie chrétienne au sérieux, là, c'est extrêmement encourageant. On pointe vers les promesses. Par contre, ce texte-là, c'est un appel au sérieux pour ceux qui sont négligents. Pour ceux d'entre vous là, qui êtes négligents dans votre vie chrétienne, c'est un appel au sérieux parce qu'il est possible que vous perdiez votre couronne. Comme le texte le dit, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le texte qui nous dit ça. C'est un appel au sérieux. Et je dirais en terminant que c'est un appel au salut. J'ose espérer que tous ici, vous êtes nés de nouveau. Mais si ce n'est pas le cas, comme il était dit dans Pierre, repentez-vous. Soyez honnête devant Dieu. Vous dites, moi, là, je suis pécheur, je suis pécheresse, je t'offense et je t'offense, Seigneur, de toutes sortes de façons. Puis je sais que quand tu vas revenir, je suis faite. Et je ne passerai pas devant le tribunal de Christ, ça parce que c'est pour les chrétiens. Je vais passer devant le grand trône blanc et je vais être jugé et jeté en enfer pour l'éternité. Et ça, ça peut arriver très, très rapidement. Parce que vous ne pouvez pas me garantir ici combien de temps il vous en reste sur la terre. Ne perdez pas votre temps. Venez à Christ pour le pardon de vos péchés. Et pour ceux qui sont négligents ici, la même chose. Repentez-vous, dites, Seigneur, je suis négligent, je coupe les coins ronds, j'ai une double vie, servir, ça ne m'intéresse pas, la sainteté, si quelqu'un me suivait en secret chez nous, là, il serait pas mal scandalisé, puis etc. Seigneur, je veux mettre ça en ordre, parce que je veux paraître devant toi un jour, là, puis entendre ce que Ghislain dit toujours. Il dit, moi, ce que je veux, Sylvain, là, c'est que le Seigneur me dise, bon et fidèle serviteur. Hein? Mais vous aussi, puis moi aussi. Prions. Eh bien, Seigneur, merci pour cette belle Église qui est remplie d'instructions. Remplie d'instructions. Et ça nous pousse, ça nous encourage, mais aussi ça nous pousse à mettre du sérieux dans notre vie et à regarder à toi encore plus pour tous les raccoins de notre vie. Seigneur, tu as dit que tu viens bientôt. J'y crois et je crois que la majorité des gens ici y croient. Oh Seigneur, reviens bientôt. En attendant, on veut te servir et t'honorer, te glorifier, Jésus-Christ. Amen.